Actu SF, les podcasts.
Bonjour. Alors nous allons finir les Utopiales ensemble, c'est sympa. Alors c'est UG, c'est le même et l'autre. Ça aurait dû être le même et l'autre, mais on m'a balancé le même dans la science-fiction, why not? De toute façon, c'est de ma faute. Jeanne m'a dit, t'aurais pas un sujet d'interro écrite? Puis alors là, on blaguait sur le même, avec un accent, le même, sans accent. Puis je lui ai dit, bah tiens, ça ferait un bon sujet. Elle a dit, ah oui, ah merde. Bon, en tout cas. Alors je me suis préparé une feuille de sèche, au cas où vous auriez des questions vraiment pointues. J'espère que non. Alors après, trois jours avant les Utopiales, je lui envoie un mail totalement angoissé. Dis donc, mais comment ça se passe, les interros? Moi, je sais pas, j'en ai jamais fait. Elle dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, vous êtes foutus, là. Alors, on va se faire des interros. C'est-à-dire que moi, je vais vous poser des questions. Nia, nia, nia. Sans quoi? Ah oui, vachement dur, vachement dur. Et alors, ceux qui répondent pas bien, ils sont jetés dans le lac avec des fers aux pieds. D'abord, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un mème?
Même si quelque chose d'identique.
C'est pas mal comme idée, oui, effectivement. Alors ça vient de mimétique. En anglais, on prononce mime, ce qui nous indique tout de suite d'où ça vient, c'est vachement plus pratique. C'est ceci est un mime. Ceci est aussi. Mais disons que, oui, moins science-fiction. Celui-ci est un mime de science-fiction. Vous avez tous, tous, vous êtes tous sur Facebook de toute façon. Ceux qui n'y sont pas, ben, vous l'apprendrez. Il y a un mime qui a couru il y a un petit peu avant les Utopiales. Vous savez, le peintre Banksy, hein, qui a déchiqueté en lambeaux le tableau qu'il venait de vendre pour une somme faramineuse, sous les yeux même des acheteurs, c'est devenu un mime. C'est-à-dire que, à peu près, je pense, dans l'après-midi ou le lendemain, il y avait une autre photo avec des pommes de terre et des frites. Et dans le contexte américain, la Constitution américaine déchiquetée, qui était beaucoup plus to the point, un peu moins drôle. Voilà l'exemple d'un mime, d'un mème visuel. Alors des mèmes visuels, il y en a plein. Il y a des mèmes de langage. On vous en cite quelques-uns dans la description du bidule. Beam me up, Scotty, et quelques autres, vous pouvez en imaginer d'autres. Donc le mème, ou le mime en anglais, c'est une image ou un concept, ou une musique qui tente à se reproduire avec des variations et à se répandre comme un virus. C'est sur le modèle, évidemment, du gène, qui lui aussi essaie de se reproduire. C'est aussi un petit peu sur le modèle du SEM, du sens, en sémiologie, si je me rappelle bien mes études extrêmement lointaines. Donc c'est quelque chose qui tend à se reproduire en se répandant dans une population donnée. Alors on n'a pas attendu d'avoir le terme mime, on n'a pas attendu Richard Dawkins et l'histoire du gène égoïste pour avoir des mèmes. Parce que les mèmes, figurez-vous que ce sont les petits-enfants de ce qu'on appelait dans le temps, quoi ? Les archétypes. Lesquels ont donné, ou ont pour cousins, les stéréotypes. Ou encore, à partir du moment où on a inventé la photographie, les clichés. Alors tout ça, c'est bien pratique pour un écrivain ou une écrivaine. Parce que ça permet de communiquer avec le public. Quand vous avez une espèce de dénominateur commun dans une culture donnée, dans un moment donné d'une culture donnée, ça rend la communication plus facile. Je pense que j'ai intitulé un passage de mon bouquin sur comment écrire des histoires du bon usage des clichés. Parce qu'il ne faut pas fuir les clichés. Les clichés sont très utiles. C'est du raccourci. Ok, vous savez de quoi je parle? Ok, passons à ce dont j'ai vraiment envie de parler. Voilà. Alors ça, c'est le Mon usage du mème, des archétypes et des stéréotypes, j'en fais un grand usage. Alors, si vous avez des questions à me poser sur des ouvrages de science-fiction qui ont pour thème le motif du mème, je suis parée, j'ai des titres, posez-moi des questions. Non, alors je vais vous les dire pareil. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai ma feuille de sèche et j'ai même une copine qui m'a aidé à la remplir davantage. Si je vous dis Jasper Ford, ça vous dit quoi ? Ok. Si je vous dis si je vous dis Neil Gaiman. Ah mais oui, vous savez qu'on n'a pas vraiment besoin de micro, c'est une salle pas mal. Donc vous avez juste à projeter. Donc oui, Neil Gaiman. Ah, il y en a un que vous ne saurez pas. Denis Côté, c'est un Québécois. Alors, donc vous ne le connaissez pas, eh bien découvrez-le. C'est un truc pour jeunes adultes, ça s'appelle L'Enfer de glace. Et quel est le trait commun à tous ces livres-là ? Bon, on va en mettre encore un. Brian Aldiss. Yes ! Il a gagné une sucette. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont ? Et évidemment, comment est-ce qu'il s'appelle ? Ah ben non, celui-là, vous le connaissez pas, je vais faire votre éducation. Ces bouquins ont en commun le fait que vous avez des personnages qui sont des personnages de fiction, qui vont se trimballer dans la vie réelle d'un autre registre de fiction. Et il y a quelqu'un qui est bien gentil, qui s'appelle Richard Singelais, qui est un théoricien québécois, qui a dit des choses absolument pertinentes sur la science-fiction, qui appelle ça la transfictionnalité. Zut, Sabrina est pas là. Mais bon, la transfictionnalité, c'est ça, ce sont des éléments de fiction qui passent dans une autre fiction. On appelait ça aussi de l'intertextualité, mais enfin bon, pourquoi pas transfictionnalité, ça fait joli aussi, il y a une syllabe de plus. Alors, celui sur lequel j'aimerais faire votre éducation, c'est un monsieur qui s'appelle John K. Bangs, John Kendrick Bangs. C'est un beau nom, Bangs. Vous ne le connaissez pas, je ne le connaissais pas non plus, parce que tout simplement, ou peut-être Pascal, là-bas, au dernier rang, c'est un écrivain, je crois, américain. Ça, je ne vous le garantis pas, là. Mais, en tout cas, un écrivain anglophone du 19e siècle. Alors, comme vous voyez, on n'a pas vraiment attendu. Alors, il imagine, c'est une série qui s'appelle The Associated Shades Series, où il y a un cercle en enfer, où des personnages de romans se retrouvent et ont des aventures, etc., etc. Donc, ils ne sortent pas vraiment dans la vie réelle, ils sortent dans un cercle de l'enfer, mais c'est ce principe d'avoir des personnages de fiction qui sont traités comme des personnages réels, si on peut dire, des personnages réels de fiction. Why not? Et alors, je vais quand même me citer moi-même, parce que, enfin, c'est la raison pour laquelle Jeanne m'a foutu sur cette émission, sur ce poste, j'ai écrit un bouquin qui repose exclusivement, justement, sur le motif des personnages de fiction qui vont se trimballer dans la vie réelle. Il s'agit de Hôtel Olympia, que vous pouvez trouver chez Alire, ou commander en ligne, ou etc., où vous avez un hôtel un petit peu mystérieux qui est en fait géré par des créatures qui viennent d'une espèce de dimension qui coexiste avec la nôtre, qui est consubstantielle à la nôtre, et ce sont des personnages qui, à un moment donné de l'évolution de l'humanité, ont été des dieux, des déesses, des demi-dieux, etc. Rien d'original là-dedans, Neil était passé par là, mais c'est mon histoire à moi, et je la raconte comme je la raconte, c'est pas la sienne. Quand quelqu'un vous dit « Oh oui, mais ça a déjà été traité », vous savez ce que vous lui répondez ? Pas par moi. Parce que chaque écrivain est unique. Bien sûr, il y a des cas d'imitation, bien sûr, il y a tout le moment où, quand on commence à écrire, on se rince la plume et on imite. Et c'est bien d'imiter, si possible, des bons écrivains, parce que comme ça, vous apprenez à bien écrire. Mais il arrive un moment où vous avez trouvé votre voix VOIX et votre voix VOIE, et à ce moment-là, ça a déjà été traité. Pas par moi. Je vous donne la phrase, il n'y a pas de copyright dessus. Alors, il y en a un qu'on n'a pas cité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire, mais dis donc, il y a un trou dans ta feuille de sèche, là. C'est un petit peu vieux, ça date des années 90, je pense, pour les traductions en français. Robert, vous êtes nul en interro-écrite. Non, l'Hémitago. Robert Holstock, qui fonde toute sa série, en particulier le premier bouquin où il a tout dit, en fait, les suivants sont intéressants, mais enfin bon. Il explore, ne disons pas exploite, il explore son bidule, c'est son droit le plus strict. C'est pas moi qui vais lui reprocher. Oui, Robert Holstock, l'Hémitago. Les Mitago sont des figures légendaires, mythologiques, mythiques, qui hantent cet endroit secret de la forêt. Là aussi, il s'agit de même au sens de archétype. Hein, ce sont des archétypes. Alors, ça c'était ma présentation. Et puisque c'est quand même une interro écrite, c'est vous qui devez poser des questions. Alors, c'est moi qui ai le micro et vous me dites « je veux causer » et je vous donne le micro. Silence de mort. Encore vous ? Pas toujours les mêmes.
On peut évoquer le voyage dans le temps dans vos livres que vous avez cités.
Quel rapport avec les mêmes ? Le voyage dans le temps ? Ah oui, non, dans la mesure où ils accompagnent l'évolution humaine, parce que ils sont créés par les humains. Alors c'est ça, ce qui m'intéresse dans les mêmes, c'est qu'ils peuvent avoir une espèce d'existence distincte, mais en même temps c'est nous qui les créons. Donc il y a une espèce de relation symbiotique. Et en tant qu'écrivaine, ça c'est un motif que j'aime beaucoup parce que ça ressemble aux histoires. Les mêmes se rencontrent, se croisent, se fécondent entre eux, changent, se modifient selon les époques, les lieux, les gens, etc. Et les histoires font pareil. Les histoires se rencontrent, se fécondent, changent avec le temps, avec les époques. Et j'aime qu'il y ait cette correspondance, si vous voulez, entre le matériau même des histoires et la façon dont les histoires fonctionnent. Autre chose ? Pour ceux qui n'ont pas de place, il y a des gens qui viennent de s'en aller. Pourquoi êtes-vous là ? Oui ? Alors, attendez. C'est vous que j'ai vu en premier, donc...
Moi, c'était une question. C'est pour vous, où est la frontière entre le mème et le plagiat, justement ?
La frontière entre le mème et le plagiat. Si je reprends l'exemple de Banksy, vous avez là un mème. Si quelqu'un refait le même truc avec un autre tableau, ce sera du plagiat. Enfin, il me semble. C'est l'idée qui me vient, enfin c'est la réponse qui me vient pour l'instant. Le plagiat est une... Et on ne parle pas de pastiche, hein, on parle bien de plagiat. Le plagiat et le pastiche, ce n'est pas la même chose. Le pastiche est une imitation aimante. Et ça suppose qu'on ait vraiment bien lu quelqu'un, qu'on ait compris non seulement son style, mais qu'est-ce qui, dans la personne, fait naître ce style. Et c'est très, très, très difficile de faire des bons pastiches. Le plagiat... on fait ça, tout le monde fait ça à l'école. Bon, il s'agit simplement d'une reproduction à l'identique, on change la ponctuation, on ajoute quelques fautes d'orthographe, parce que bien sûr, normalement, on n'écrirait pas aussi bien, et hop, ça passe. Pas si le prof est pas totalement con. Bon, voilà. Alors, c'est ça. Là, on avait une autre... Qui c'était vous ?
Merci de vous déplacer. Bonjour. Alors, vous avez parlé du mème en tant qu'objet de dérivation, mais en tant que, je pense qu'on est beaucoup de consommateurs d'internet et de culture internet ici, et qu'on est nombreux à voir le mème comme un objet d'humour, de lol entre guillemets. Est-ce que ce sont deux définitions qui cohabitent, ou à un moment il y a une rupture entre vraiment cette notion littéraire et ce côté objet de dérivation de culture mémétique, de culture internet. Je ne sais pas si c'est très clair.
Je vais essayer de voir si j'ai compris. Euh, À partir du moment où il y a reproduction avec variation, pour moi, il y a un mème. Alors, qu'il soit sujet, qu'il suscite le rire, c'est secondaire d'une certaine façon. Il peut susciter le rire, il peut susciter le scandale, mais à partir du moment où il y a dérivation, et à partir du moment où cette dérivation riff, en quelque sorte, pour utiliser un terme musical, riff sur le motif initial, c'est un mème, et ils sont tous mèmes en même temps, au même plan pour moi, en tout cas.
Je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais c'est peut-être un peu pour rebondir, parce que je pense que sur Internet, il y a une volonté de se moquer gentiment ou pas pour créer le LOL. Je sais pas si... Voilà, enfin, moi je pense à Classical Art même, où on reprend des tableaux et on se moque en mettant des petites bulles drôles dessus. Et dans la littérature, peut-être que c'est plus... Enfin, je me disais à quoi ça sert de servir d'un mème dans la littérature, et c'est... Contrairement à Internet, c'est peut-être, comme vous disiez, pour faciliter la communication avec le public, et pas forcément pour créer le rire, mais plus pour créer une complicité. Enfin, je ne sais pas. Voilà.
Oui, c'est une remarque tout à fait juste. L'usage, le détournement, la subversion de tableaux ou de photos, etc., comme je le disais, à partir du moment où c'est une variation sur un motif... Ça suppose évidemment qu'on partage la même culture, et c'est un moyen de communication entre membres de cette même culture. Hein, il y a des mêmes Européens, il y a des mêmes Japonais, quelquefois, ils sont mutuellement incompréhensibles. Dans la littérature, effectivement, le mème, l'archétype, le stéréotype, le cliché, est un moyen de faciliter le contact avec le lecteur, les lecteurs, les lectorices, je veux dire lectorices. Le masculin est inclus dans le féminin. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a toujours cette barrière, enfin cette limite du même, qu'il faut qu'on participe de la même culture. Et donc c'est un usage, enfin c'est un outil technique à utiliser de façon prudente, consciente et organisée. C'est-à-dire que spontanément, vous allez utiliser des mèmes. Vous le saurez même pas, vous ferez comme Monsieur Jourdain, vous ferez du même sans même le savoir. Bon, comme il faisait de la prose. Mais au moment où vous aurez appris, parce que ça s'apprend, à vous relire, là vous allez dire, oh tiens, là prenons Oedipe. Voilà un mème qui galope pas mal. Bon, ok, j'ai un mythe d'Oedipe là, ok, de quelle façon est-ce que je l'utilise? Est-ce que je le détourne? Est-ce que je le subvertis ou est-ce que je l'utilise direct? Est-ce que les gens vont comprendre? De quelle façon est-ce que je peux disséminer les différents éléments du mythe dans ma narration au niveau de l'intrigue ou au niveau de la couleur, de l'environnement, ce que vous appelez le décor? Ce qui est un terme un petit peu péjoratif, je trouve. Enfin bon. Et donc là, il y a un travail à faire au niveau de l'écriture. On m'a reproché dans mes textes, mais c'était quelqu'un qui était de mauvaise foi. Mais bon, ça fait rien, on m'a reproché quand même. Et on n'avait pas tort de dire que j'utilisais de la mythologie. Là où on avait tort, c'était de dire que je le faisais d'une telle manière que c'était totalement incompréhensible à quelqu'un qui n'avait pas fait des études de lettres classiques. C'était pas vrai, parce que c'était inclus, la description, l'explication du mythe était inscrite dans l'intrigue. Et au niveau de la narration aussi. Donc, ok, oui, j'utilise la mythologie, ben oui, parce que j'ai été déformé de cette façon-là. J'utilise des tas d'autres mythes que la mythologie classique, ceux que je connais, en essayant de les respecter, mais c'est une question vraiment d'écriture. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas, ça va pas être automatique, je veux dire. C'est pas parce que, oh bon, allez, tiens, je vais flanquer un mythe d'Oedipe là-dedans, tout le monde va comprendre. Non. Pas forcément. Alors, plus votre mythe sera obscur, plus le problème sera difficile. Le problème de communication sera difficile. Autre chose. Il y avait une petite seconde d'avance. C'était qui déjà ?
Alors, je vais peut-être être un peu hors sujet, mais c'est pas grave, j'assume, je vais rater l'interro. Pour moi, la science-fiction, elle nous met justement souvent en position de nous interroger sur le même, parce qu'elle nous met en situation d'être avec d'autres qui sont franchement différents. Voilà, C'était mon idée, quoi.
Mais votre mème, là, il a un accent. A-t-il un accent? Oui. Ben, on peut jouer. Moi, j'aime bien jouer, justement, sur ce mème. C'est pour ça que j'aurais voulu que Jeanne intitula, parfait du subjonctif, cet exercice, le mème et l'autre. Parce qu'effectivement, le mème sans accent est aussi pour une culture donnée du mème, avec accent. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de la tradition, ça peut être au niveau du folklore local, comme ça peut être au niveau de l'Europe tout entière. Enfin bon, mais c'est du mème, avec un accent. Et effectivement, la science-fiction, ce que j'aime dans la science-fiction, et ce qui nous attire en général vers la science-fiction, c'est son ouverture à la différence, au changement, la question, comment ce serait si c'était différent, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Ça, c'est vraiment la grandeur grandiose de la science-fiction. Ça peut paraître paradoxal d'utiliser du même sans accent pour parler dans la science-fiction, mais en fait, non, parce que c'est le même et l'autre. C'est-à-dire que pour percevoir, jusqu'à quel point, je pose la question, je vous demande pas d'y répondre, mais simplement d'y penser, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut reconnaître l'autre? Parce que je dis que l'intérêt et l'ouverture à l'autre de la science-fiction, c'est le grandiose, grandiose de la science-fiction, mais c'est aussi un échec glorieux, si vous y pensez bien. Pensez, cherchez à vous-même, dans votre propre expérience de lecture, des textes où vous avez vraiment eu l'impression de toucher à la différence, à une vraie différence. Moi, j'en ai très peu. Il date un peu. Mais j'en ai deux. trois, peut-être, si je compte les, mais même là. Non. C'est-à-dire que la relation à l'autre, ben si vous avez vu le documentaire sur Le Guin, elle parle de cet Indien, seul survivant de son ethnie, Ishi, qui n'était pas son véritable nom, qui lui a donné l'expérience de l'autre. Mais en même temps, elle avait conscience, ou elle a pris conscience du fait que elle ne le voyait, et les Occidentaux et les Américains ne l'ont vu, qu'à travers une récupération partielle. C'est une interprétation d'Ishi que la mère de Le Guin a rédigée. Ça n'est pas Ishi dans son être même. Et c'est la même chose chaque fois que le motif de l'autre, qu'il soit terrestre ou extraterrestre, est abordé dans la science-fiction. On est constamment pris entre l'interpréter, c'est-à-dire le tirer à nous, pour pouvoir le reconnaître comme, par exemple, humain, et auquel cas on le récupère, et auquel cas il est déjà moins autre. Il y a une espèce de distance idéale à conserver avec l'autre pour qu'il continue à être autre, sinon on l'assimile. Et c'est tout le problème aujourd'hui, entre l'assimilation et le rejet. Il devrait y avoir une position intermédiaire qui permet à l'autre d'exister dans sa différence, et à nous d'exister dans la nôtre et de nous accepter mutuellement. Et c'est le problème, c'est tout. C'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Et je pense pas qu'il soit résolvable, luble, enfin qu'on puisse le résoudre aisément. C'est une question qu'il faut constamment se poser en modifiant les variantes, quoi, à chaque moment de notre société. Et par exemple, je vais vous donner un exemple d'autre, moi, qui m'a fait toucher du doigt ce que pouvait être l'autre. Mais vraiment, c'est comme une asymptote. On court tout le temps après sans jamais le rattraper. Hein. C'est pour ça que je parlais d'échec glorieux. C'est dans Les Enfants d'Icare d'Arthur C. Clarke. Qui a lu Levez le doigt. Oh putain. Eh bien, lisez-le. Ne serait-ce que pour feuilletez-le. C'est un grand classique. C'est un des rares cas où le titre français est meilleur que le titre anglais. Le titre anglais, c'est La fin de l'enfance. Alors que Les Enfants d'Icare, si vous y pensez bien, c'est une impossibilité. Icare est mort en essayant de toucher le soleil. Il n'a pas eu d'enfant. Et pourtant, dans cette histoire, il y a des enfants. Je vous résume. Ok, on allume un feu et je vais vous raconter une histoire. dans le futur de la Terre, une Terre maganée, pas maganée au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est un texte qui date des années 50, mais en proie à divers problèmes sociaux, économiques, politiques, etc. Tout d'un coup, et là l'image va vous être familière, de grands, gigantesques vaisseaux s'immobilisent au-dessus des grandes villes, des grandes métropoles mondiales. Maman, les extraterrestres arrivent. Et là, je me rappelle plus, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais en tout cas, la Terre apprend que on va l'aider à devenir utopie. Une utopie. Et effectivement, on règle tout ça, on règle tout, on leur donne de la technologie, on règle les maladies, enfin bref, la Terre se transforme en paradisie. Merci, tonton extraterrestre. Mais on les a toujours pas vus, les maudits extraterrestres. Ça fait 25 ans qu'ils sont là, en train de flotter au-dessus de nos villes. Bon, d'accord, on s'est habitué. Mais à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Et enfin, comment est-ce qu'ils s'appellent déjà, les Yves? Tu te rappelles plus? Les suzerains. Ils se donnent le nom de suzerain. Je me rappelle plus le nom en anglais. Mais en tout cas, première fois que je l'ai lu en français. Bon, comme tout le monde. Donc, les suzerains annoncent qu'ils vont apparaître. Oh, tout le monde est là, caméra, clic, clic. Et ils apparaissent. Ce sont des créatures rouges, munies de cornes, avec une queue de serpent. Et à leur côté, le tenant par la main, un enfant. Et on comprend, ils expliquent pourquoi ils ne voulaient pas apparaître plus tôt. Parce que le même, en l'occurrence, était plutôt négatif, n'est-ce pas? Donc là, en 25 ans, on a suffisamment évolué pour ne pas piquer de crise d'hystérie en voyant « Ah, le diable !» Bon, et il continue à aider l'humanité, et maintenant il se promène parmi nous, bon, ok. Puis là, il y a des choses qui commencent à arriver. La chose qui commence à arriver, c'est que les enfants changent, et la fertilité décroît. Les enfants changent. La dernière génération, après quoi il n'y en a plus, la dernière génération est étrange. Ce sont des enfants qui ne parlent pas et qui se rassemblent en gigantesques raves où ils dessinent dans des endroits vastes, où ils dessinent des signes dans une espèce de danse, des signes totalement incompréhensibles. Et on apprend que ces enfants sont en fait devenus des télépathes et qui fonctionnent comme un seul organisme. Et, pour vous faire une histoire courte, cette génération-là est la seule qui soit récupérable de l'humanité tout entière, parce que cette génération-là va être capable d'entrer et de faire entrer l'humanité, du moins cette humanité transcendée, transhumaine, dans le domaine de ce que les suzerains appellent le suresprit. Et là, vous avez une espèce de mise en abîme absolument fascinante où on pensait que les suzerains étaient ces créatures toutes puissantes. Eh bien non, ils ne sont que les marionnettes, enfin les serviteurs, d'une puissance infiniment plus grande qui est en arrière. Et quand quelqu'un leur demande d'essayer d'expliquer ce que c'est le suresprit, ils ne peuvent pas. Ils ne l'ont jamais vu. Ils en reçoivent les ordres. Mais ils ne l'ont jamais vu. Ils ne savent pas à quoi il ressemble. Ils savent juste que c'est le suresprit. C'était à l'époque où on était très influencé par les écrits de Teilhard de Chardin avec la noosphère et la conscience cosmique et le point oméga et toutes ces sortes de choses-là. Vous pouvez aller voir sur Google, ça ne vous dit rien. Mais c'est ça que Clark illustrait par son suresprit. C'est-à-dire que c'est pas... Évidemment, nous avons tendance à interpréter comme c'est un petit peu divin comme même, là. Hein? Bref, l'humanité sait qu'elle va finir. Et bon, personne ne pique de crise d'hystérie, apparemment. Ils s'en vont with a whimper, not with a bang. Avec un soupir, pas avec une explosion. Et à un moment donné, bon, les enfants sont emmenés et ils vont rejoindre le suresprit et tout ça pendant que l'humanité finit de décader. Enfin, elle ne décade pas, elle s'éteint sur sa planète paradisiaque. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide de devenir passager clandestin à bord d'un des vaisseaux, des suzerains. Et si je me rappelle bien, c'est un noir. Il faudrait que je relise, mais il me semble bien que c'est un noir. Wow, c'est bien Arthur. Et donc, il est passager clandestin, on s'aperçoit très vite qu'il est là, on ne le jette pas à l'espace. Et on l'emmène sur la planète des suzerains. Et sur la planète des suzerains, alors qu'il se promène, il est le témoin d'un phénomène très curieux. D'abord, il voit comme une espèce de montagne qui pousse. Triangle. Et au sommet de cette montagne, il y a une sphère. Et il y a aussi un anneau. Alors là, si vous rameutez vos mêmes visuels, tout ça, ce sont des mêmes qui renvoient à l'image de Dieu. C'était la seule façon, pour Clark, qui n'est pas quelqu'un de religieux, de réintroduire une spiritualité dans son bidule. Et alors, ne sachant pas ce qu'il a vu, le personnage se tourne vers le suzerain et lui dit « Mais c'est quoi ça ?» Et l'autre lui dit « Quoi ça ?» Et là, « Vous ne l'avez pas vu ?»« Eh bien non, mais j'ai comme l'impression, » dit le suzerain, extrêmement triste, « que vous venez de voir le suresprit. » Et là, il lui explique que s'ils ne l'ont jamais vu, ces êtres qu'on croyait surpuissants, c'est qu'ils sont une branche morte de leur propre évolution, dans leur propre système. Ils sont stériles. Leur race ne rejoindra jamais le suresprit. Ils ne sont pas capables de le voir. Ils ne sont pas capables d'évoluer. Alors évidemment, l'humanité est tellement mieux. Bon, ok, c'est les années 50. Mais... Et quand j'ai rencontré cette description du suresprit, là, j'ai touché. Il faut le voir comment c'est décrit. Non, je vous le décris certainement très mal. Mais dans le texte, là, à un moment, on a un moment de « Oh, waouh !» Vous savez, le « sense of wonder », là, le sens de l'émerveillement. Oui, là, on touche quelque chose qui n'est pas humain. L'autre exemple, je ne sais plus. Alors, je vais reprendre l'exemple ennemi, qui est celui de Le Guin dans « La main gauche de la nuit », où, à travers les considérations torturé du mobile Genli Hai, qui se rend bien compte qu'il est coincé dans son sexe et dans son genre, et qui n'arrive pas à voir les humains de Geten comme autre chose que des hommes ou des femmes, à travers le rapport de l'exploratrice qui narrativise aussi la problématique sexuelle et sexuée des Geteniens. Là aussi, j'ai eu l'impression de toucher à l'autre. Et je pense que c'est beaucoup, aujourd'hui, c'est sans doute beaucoup à travers les questions de genre qu'on touche à la problématique de l'autre, au questionnement sur l'autre, qui devrait toujours rester un questionnement parce que les réponses tuent, en général. Et donc voilà, l'usage du même, qui est un même, avec un sens sans accent, permet d'exprimer dans des histoires le rapport si fondamental de la science-fiction à l'autre et à la différence. C'était une très longue réponse, comme celle dont j'ai le secret. Quelqu'un a-t-il une autre question ? Oui, ah ben, vous étiez... Je vous ai raté tout à l'heure.
Après, vous. Merci. Du coup, enfin, c'était moi plus pour rebondir sur ce que vous aviez dit, que le même servait comme raccourci au sein d'une culture, mais moi je me demandais parce que du coup si ça sert à fédérer, ça peut fédérer des gens autour d'une culture, et donc s'il n'y avait pas des risques en utilisant les mêmes de renforcer un communautarisme, voire un ethnocentrisme culturel, comme ça peut se voir par exemple aujourd'hui sur Internet, parce que par exemple, enfin moi l'exemple auquel je pense, c'est qu'il y a beaucoup de courants, par exemple d'extrême droite, qui utilisent beaucoup certains mèmes sur Internet comme un peu comme signe de ralliement, quoi, si vous voulez. Donc, est-ce que l'abus de l'utilisation de mèmes peut être dangereux à ce niveau-là?
Alors, comme disait Tonton Boileau au XVIIe siècle, l'abus en tout est un défaut. Bien sûr, il y a des mèmes, comme je disais, il n'y a pas seulement les réponses qui tuent, mais il y a des mèmes qui tuent. Les mèmes concernant les juifs, les noirs, les verts, les jaunes, les bleus, les mauves à pois verts, enfin, tout ça. Dès qu'un stéréotype, un cliché, un stéréotype, un mème, devient un principe, devient une manière d'essentialiser quelqu'un et de le figer dans sa différence pour le désigner comme l'autre mauvais dont il faut se débarrasser pour que moi je sois le bon, n'est-ce pas? Là, ça vient de s'éteindre, c'est sûr. Bien sûr. Et alors, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent quand on utilise des mèmes, sans accent, dans sa fiction. C'est que nous sommes traversés, parasités par tout un tas de langages, surtout quand on commence à écrire, puisqu'on écrit avec ce qu'on a lu, avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a entendu, et vous voyez et entendez et lisez énormément de choses aujourd'hui qui sont quelquefois extrêmement délétères. Quand on vivait de mon temps, dans les années 50, que j'étais petite fille, je vivais finalement dans un milieu très protégé. Bon, alors que maintenant, ouf, tous les vents de la modernité passent au travers de tout le monde. Et avec ces vents de la modernité passent justement des mèmes mortels, des mèmes mortifères. Il faut apprendre à les reconnaître, il faut apprendre à les voir dans sa propre écriture et à s'interroger sur est-ce que... Évidemment, ça prend une certaine distance, mais ça aussi, ça s'apprend quand on écrit, une certaine distance par rapport à soi. Voyons, j'ai écrit ça, moi. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Alors, est-ce que c'est juste, je me suis laissé aller, j'ai descendu la pente habituelle, bon, allez, on enlève ça et on va changer ça, ou bien, ou non, ça me dit quelque chose, mais je sais pas exactement quoi, il faut que je le triture pour voir. Alors, je vais faire un personnage qui, dans une situation dont, et je vais narrativiser ce même discutable pour voir qu'est-ce que je peux en tirer pour mon histoire, pour la réflexion des personnages, pour l'évolution des personnages et pour ma propre évolution. C'est sûr que si on écrit si on écrit sans penser à ce qu'on écrit à un moment donné, pas certainement pas au premier jet, mais peut-être au deuxième, au troisième, au dixième jet, ben on n'avance pas. On n'avance pas au niveau de la technique et on n'avance pas au niveau du style, donc de la technique. On n'avance pas au niveau de la complexité, de l'inventivité, de la richesse des histoires et on n'avance pas au niveau de sa propre complexe richesse. Bien, il y avait une autre question là-bas tout à l'heure.
Moi, la question que j'avais, elle était plus sur le même. C'est quelque chose qu'on retransmet, qu'on modifie et dont on prend plaisir à se réapproprier. Et que, justement, cette réappropriation, elle est aussi légitimée par ceux qui vont la valider, en fait, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Et on constate que le même, c'est quelque chose qui est diffusé avec une réappropriation qui peut aller de l'extrême droite à l'extrême gauche selon et la question que j'avais peut-être mal formulée, c'est est-ce que aujourd'hui il serait pas plus intéressant de s'interroger sur le fond des mèmes qu'on fait passer plus que sur leur forme?
J'ai envie de vous répondre que la forme c'est le fond, c'est la forme. Ça me paraît difficile, m'a toujours paru difficile de séparer les deux. Qu'est-ce que vous appelez le fond?
Ce qu'on va y intégrer comme message, je prends le même sans accent par exemple, qui est très connu, c'est le Batman et Robin, Batman qui claque Robin en lui disant, j'ai plus la phrase originale, mais et qui a été repris par tout autant de comment dire d'affirmations possibles, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et donc du coup, quand je parle de fond, c'est de ce qui va être mis derrière et à quoi on va mettre au service à quel service on met le même, en fait.
Alors là, vous avez une illusion de contrôle qui est absolument charmante, mais qui me paraît une illusion. Une fois que vous lancez quelque chose dans le réseau des consciences, vous avez un contrôle extrêmement mince, sinon totalement absent, sur la façon dont ça va être reçu. Effectivement, il faut essayer de contrôler, de gérer, de comprendre ce qu'on fait au moment où on envoie le même, où on dissémine, où on utilise, où on écrit, où on insère dans une narration, bon, puisque je parle d'écriture, bon, pas de réseaux sociaux, mais c'est la même chose. Simplement, ça se passe beaucoup plus vite et c'est encore plus incontrôlable. Bon, parce qu'enfin, quand vous lancez un mème dans un livre qui est imprimé, qu'il soit électronique ou pas, ou qu'il soit audio ou pas, il y a un document de départ qui est facilement retrouvable. Alors qu'un mème qui se diffuse dans les réseaux sociaux, si vous avez déjà essayé d'aller voir sur Snopes ou bien des trucs comme ça, quelle est la légitimité de cette image ou cette information vient d'où exactement? Et là, vous partez dans un labyrinthe hallucinant. Et c'est la même chose pour un mème, c'est ça. C'est quelque chose qui se diffuse, et alors là, en l'occurrence, à cause de la technologie, d'une façon foudroyante. Et vous ne pouvez donc absolument pas le contrôler. Si on essaie de faire une recherche pour remettre à l'endroit ce qui était à l'envers, ça devient pratiquement impossible. Alors, la seule manière de contrôler, si on veut contrôler, c'est sûrement pas en aval, c'est en amont. C'est qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on va dire n'importe quoi sans réfléchir à ce qu'on fait? Oui, parce qu'on va vite. Oui, parce qu'on veut toujours aller plus vite. Et c'est là qu'est le danger, effectivement. C'est pas dans une... Enfin, il me semble pas que ce soit dans une distinction entre le fond, entre un fond et une forme. C'est dans l'immédiateté ou non de l'action de diffusion du même. Je pense, je crois, il me semble. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez, courage, plus que 8 minutes. Oui. Vous après. Pardon.
Y a une chaîne YouTube qui s'appelle CGP Grey. Je ne sais pas si vous connaissez. Une chaîne YouTube qui s'appelle CGP Grey et qui parle des... Alors là, lui, c'est plutôt sur des idées, mais je pense qu'on peut... Enfin, l'idée est le même, partage des caractéristiques communes. Et en fait, il aborde la vision donc de l'idée du même sous la forme d'un virus socioculturel qui se transmet d'individu en individu, qui peut muter, qui voilà. Et du coup, par rapport à cette vision-là, alors peut-être vous, dans votre travail en tant qu'écrivaine, quel en gros, parce que pour se protéger des virus ou voilà, on va utiliser des règles sanitaires, se laver les mains, voilà. Comment on pourrait transposer ça dans votre travail? Vous essayez de faire attention à ce que vous mettez. Comment on peut le transposer dans votre travail, ces règles d'hygiène, en gros, pour pas véhiculer des...
Je crois que c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que il arrive un moment où je relis ce que j'ai écrit, et là, comme il s'établit une distance à partir du moment où quelque chose est écrit. Et qu'il est plus dans votre tête, là. Il est juste assez séparé de vous, juste assez à distance, plus ou moins après, plus ou moins longtemps, bon, bref, pour que vous puissiez voir les sens possibles. À un moment donné, je dis toujours que j'écris pour moi d'abord, pour les lectoristes ensuite, c'est toujours vrai, mais il arrive un moment où je pense aux lectoristes. Et je me dis, comment est-ce que ça va être interprété, ce truc-là? J'ai intérêt à clarifier, là, parce que la possibilité de contresens ou d'incompréhension, est trop grande. Il n'y a pas plus grand risque de malentendu que autour de ce qui n'a pas été dit et qui n'a donc pas pu être entendu. C'est ça, oui. C'est à la relecture et c'est au niveau du travail de réécriture. J'essaye. Je dirais pas que j'y arrive tout le temps et de loin, mais c'est ça. Et je pense que c'est le genre de travail qu'on devrait faire sur Facebook. Quand on écrit des bidules, non, bon, je sais. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai pas vraiment d'autres trucs pour ça, pour gérer les mêmes. Il y avait quelqu'un là-bas tout à l'heure. Oui, excusez-moi. Ça va commencer à être les derniers.
Ouais, pour le coup, c'était pas une question, c'était juste pour mettre en avant. Le travail de John Scalzi qui est ici là, qui a écrit Red Shirt et qui utilise un mème comme base de son récit. Le titre de son livre c'est le mème, donc il y a vraiment des façons intéressantes d'utiliser les tuniques rouges de Star Trek pour ceux qui voilà. Et là c'est une utilisation volontaire pure du mème et c'est une autre façon de l'utiliser.
Combien d'entre vous avez compris ce titre? C'est QFD. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que si on utilise un mème, il faut s'assurer que ce mème sera compris par un maximum de gens. Et alors quand on écrit, ça devient vraiment un problème sérieux, oui.
Merci. Pour rester dans Star Trek, cette histoire de red shirt, il y a des gens qui se sont amusés à faire des calculs statistiques justement de morts dans les épisodes, et ils en ont conclu qu'en fait, non, statistiquement, c'est faux. Mais bon, c'est quand même resté. Justement, ça, c'est intéressant, parce que le même peut être fondé sur quelque chose de faux, donc en voilà. Ouais, si les études sont bonnes, le red shirt, c'est faux. Il y en a un autre, c'est le Beam Me Up Scotty, qui est peut-être le même de SF le plus connu, qui en fait repose sur rien. À aucun moment, personne ne dit Beam Me Up Scotty. Ils disent les choses... Enfin, ils disent des tas de trucs autour de ça, mais jamais ça exactement. Et un autre mème en SF, très connu aussi, c'est la façon de parler de Yoda, tout bêtement. Que tout le monde peut imiter, ça c'est vraiment un mème de SF. Quoi. Enfin, de fantasy, puisque Star Wars c'est de la fantasy, mais bon, on va pas entrer dans le débat.
Oui, effectivement. Non seulement il y a, vous voulez aussi, non seulement il y a des mèmes mortifères, comme on disait tout à l'heure, mais il y a des mèmes qui sont faux. Mais la vérité ou la fausseté du mème... est secondaire par rapport à sa façon de se reproduire. Enfin, je veux dire, l'importance de la vérité ou de la fausseté du mème, ça n'est pas sur le plan de la vérité ou du mensonge que ça se situe. Ça se situe dans l'interrelation entre l'émetteur du mème et le récepteur du mème. Donc, que ce soit faux ou vrai, malheureusement, et c'est pour ça que Snopes existe.
Oui, en fait, je voulais savoir, par rapport à l'histoire que vous avez racontée sur les extraterrestres qui viennent et qui font de la Terre une utopie, vous avez expliqué qu'on ne les voyait pas pendant 25 ans et qu'on se posait la question de « mais à quoi est-ce qu'ils ressemblent, voyons et tout ça ?» Et c'est seulement quand on les voit qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on les a pas vus avant. Mais j'ai pas lu la nouvelle et j'aimerais bien savoir si la question... pas à quoi ils ressemblent, mais pourquoi est-ce qu'on les voit pas, a été posé avant qu'on les voit. Parce que, en fait, vous avez...
Répétez la dernière phrase, j'ai pas compris.
C'est pourquoi est-ce qu'on les voit pas.
Oui.
Pas à quoi ils ressemblent.
Oui, c'est ça, c'est pourquoi. Bah, oui, ok. Je suppose que implicite dans le roman, ou quelque part, dit quelque part, parce que les personnages, c'est les années 50, discutent beaucoup entre eux, as you know, Bob... Les deux questions s'impliquent mutuellement. Pourquoi on les voit pas? Ils ont quelque chose à cacher. Hein, c'est ça, c'est la parano de base. Mais c'est pas une nouvelle, c'est un roman. Il est pas très long. Il est pas très long. Bon, une dernière et après je vous lâche. Oh oui, vraiment une dernière là. Ah.
Bonjour. Si on reprend le concept du monomythe de Campbell dans son livre Le héros aux mille et un visages, en tant qu'écrivaine, est-ce que vous pensez que chaque histoire que l'on crée n'est-elle pas un mème d'un autre document, d'une autre histoire ?
Oui, selon le bon vieux mème, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. mais comme j'ai dit, pas par moi. Bien sûr, on s'inscrit dans des structures narratives. Il y a quelqu'un qui s'appelle Vladimir Prop dans les années 60 qui a fait toute une étude sur les contes en Europe et la façon dont les structures se retrouvaient et se répondaient d'un pays à l'autre, d'un conte à l'autre, etc. C'est sûr qu'on utilise, l'inconscient est structuré comme un langage et les histoires sont structurées par le langage. Donc l'imaginaire étant une espèce d'excroissance de l'inconscient dans mon système poétique, il n'est pas étonnant que... il y a des structures qui reviennent et que ces structures appartiennent au fond commun de l'humanité. Les études transversales des mythes ont bien montré qu'il y a des correspondances d'un continent à l'autre, même entre des ethnies qui ne se sont jamais rencontrées, etc., etc. Donc oui, certes, voilà, yes. Et c'est sur ce mot qui conclut aussi le Ulysse de James Joyce, n'est-ce pas ? Soyons littéraires ou ne le soyons pas. Yes ! Yes ! Je vous lâche. Merci.